Donc là, le sujet, c'est un sujet d'actualité, à savoir le primat pontifical. Il y a eu sur ce sujet un article dans le dernier Fidelitaire que vous pourrez consulter. Sur cette remise en cause du primat pontifical, qui est une conséquence de la collégialité qui a été définie au Concile. Donc vous trouverez quelques arguments et aussi les extraits des documents que je vais citer. Et pour ce qui est de la doctrine catholique, eh bien vous pourrez regarder dans les éditions Fidelitaires, le dogme, vous savez, ces gros livres rouges et blancs, sur la doctrine de l'Église concernant le pape. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est au début de décembre 1996, sur l'initiative de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc la Congrégation pour la doctrine de la foi fait suite au Saint-Office, et le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est le cardinal Ratzinger. Donc il s'est tenu à Rome un symposium pour traiter de la question de la primauté du souverain pontife, dans l'esprit de la ligne indiquée par Jean-Paul II dans son encyclique Autonum Sint. Donc qu'il soit un, cette encyclique traitait de l'unité, donc de l'œcuménisme, encyclique qui était grave, bien sûr. Et à l'occasion de l'ouverture de ce symposium, le pape a écrit une lettre au cardinal Ratzinger, lettre qui a été publiée dans l'Observatore Romano, donc qui est publique, et le commentaire des journaux, le pape serait prêt à remettre en question sa primauté. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est grave. Alors, voici un commentaire de cette lettre. Je ne vais pas la lire en entier, mais signaler les points principaux. Alors, il rappelle bien sûr le rôle du successeur de Pierre, du pape, qui est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité. Bon, bien sûr. Mais il ajoute que c'est un don confié à l'intérieur même du collège des évêques à l'apôtre Pierre en tant qu'évêque de Rome. Donc, un don confié à l'intérieur même du collège des évêques. Alors, nous expliquerons un peu plus loin en quoi cette phrase à l'intérieur même du collège des évêques se rapporte à la collégialité qui a été définie au Concile Vatican II. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut en penser. Et ensuite, il donne le motif, l'intention pour laquelle il demande à ce symposium l'étude du primat pontifical. Donc, je cite, d'autre part, comme je l'ai affirmé à l'occasion de la rencontre avec le Conseil œcuménique des Églises à Genève en juin 84, le Conseil œcuménique des Églises, ou COE, c'est comment dire, l'assemblée, si vous voulez, un conseil permanent de toutes les sectes protestantes. C'est un grand nombre de sectes protestantes se sont regroupées depuis le début du siècle et le COE a dû être fondé juste avant, juste après la guerre. En tant que tel, mais il existait auparavant deux branches qui essayaient de rassembler. Les sectes protestantes, c'est un désir de l'unité chez les protestants, mais ça fonctionne un peu comme, si vous voulez, le Parlement de Bruxelles pour l'Europe. C'est le même principe. Donc, et le pape avait été en 84 au Conseil œcuménique des Églises. Et il avait affirmé à cette occasion que une telle conviction de l'Église catholique, à savoir la question du primat pontifical, constitue une difficulté pour la majeure partie des autres chrétiens, dont la mémoire est marquée de certains souvenirs douloureux. Donc ça, c'est l'allusion au fait que l'Église aurait mal agi à l'égard des protestants, et donc toute cette tendance à vouloir demander pardon pour les péchés de l'Église. C'est comme si l'Église avait pu commettre des péchés dans le passé. Et donc il dit que le primat pontifical constitue une difficulté pour la majeure partie des autres chrétiens, bien sûr, pour les orthodoxes et pour les protestants. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est l'obstacle principal. Alors il continue, ainsi du fait de la préoccupation pour l'unité qui rentre essentiellement dans le domaine du primat, j'ai manifesté dans l'encyclique pour qu'il soit un, encyclique qui est de 1995, j'ai manifesté la persuasion d'avoir à cet égard une responsabilité particulière, surtout lorsque je vois l'aspiration œcuménique de la majeure partie des communautés chrétiennes et que j'écoute la requête qui m'est adressée de trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission. Donc, dans le but de ce faux œcuménisme, que nous connaissons trop maintenant depuis bien des années, il veut trouver une nouvelle forme d'exercice de la primauté, mais sans renoncement à l'essentiel de sa mission. Et à cette fin, il demande l'étude du primat pontifical selon le principe suivant: indiquer les éléments essentiels de la doctrine de la foi catholique sur cet aspect de l'ecclésiologie et les distinguer des questions légitimement disputées ou de quelque façon non liées de façon définitive. Autrement dit, on doit distinguer dans l'enseignement d'Église ce qui est strictement de foi concernant le primat pontifical de ce qui ne l'est pas ou ce qui n'est pas défini par l'Église mais qui est enseigné de façon commune. Parce qu'il est sûr que le Concile Vatican I a défini la doctrine du primat pontifical, mais il pourrait se faire que tout n'ait pas été précisé, et comme ça n'a pas été précisé, ben on va se dire c'est pas de foi vraiment, donc on le met de côté. Mais cependant, c'est l'enseignement commun. Or, cet enseignement commun est étroitement lié à ce qui est défini comme étant de foi. Bien sûr, où cet enseignement commun, où il appartient au dépôt de la foi, mais il n'a pas encore été défini comme étant de foi, ou bien il lui est si uni qu'il constitue comme une protection pour le dépôt de la foi. Alors si on enlève cette protection, dans le prétexte de pouvoir mettre de côté ce qui gêne les protestants et pouvoir faire se rapprocher d'eux, mais si on enlève cette protection, c'est le dépôt même de la foi qui va être attaqué. C'est la foi elle-même qui risque d'être attaquée et de disparaître. Donc ce principe, d'autre part, veut rechercher une unité sur une base commune aux catholiques, orthodoxes et protestants. Alors cette base est forcément un minimum, puisque les orthodoxes et les protestants n'acceptent pas le primat pontifical. Alors comment faire quelque chose de commun ? Il faut voir la base commune, dans quelle mesure protestants et orthodoxes admettent le pape. Mais cette base va forcément être un minimum acceptable par tous. Par suite, vous allez fonder une unité sur un minimum. Alors, ce fondement de l'unité ne peut être que fragile et inexistant. Or, l'enjeu est de taille, parce que c'est le primat qui est la source de l'unité. C'est le pape qui fait l'unité dans l'Église, et la triple unité de l'Église, l'unité de foi. C'est lui qui garantit l'unité de l'enseignement des vérités de foi, l'unité du culte, messe et sacrement, et c'est lui qui garantit l'unité de discipline, l'obéissance aux mêmes lois dans l'Église. Remettre en cause le primat, se remettre en cause ce qui fait l'unité, c'est donc remettre en cause l'unité elle-même. Donc, vous voyez, c'est une contradiction. On cherche l'unité, et puis on attaque ce qui normalement doit faire l'unité. Donc on est en contradiction. Autrement dit, si vous voulez une image plus claire, on coupe la branche sur laquelle on est assis. L'Église et l'unité dans l'Église tient par le pape. Si on commence à attaquer la primauté du pape, eh bien on attaque ce qui fait l'unité. Donc l'unité est impossible. La preuve d'ailleurs, c'est que les protestants n'ont pas l'unité. C'est une diversité de sectes. Donc c'est toute l'existence de l'Église qui est en jeu. Je pense que vous comprenez la gravité de cela. Alors, essayons de donner l'enseignement de l'Église sur le primat pontifical. Alors, notre Seigneur est donc venu opérer la sanctification et la rédemption de nos âmes, et cette œuvre de notre salut doit se perpétuer après son ascension, bien sûr. Donc, à cette fin, il institue l'Église. Et il donne à l'Église des pouvoirs pour continuer la mission que lui a commencée. Et c'est pourquoi, juste avant son ascension, c'est dans Saint Matthieu chapitre 28, il dit aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné, allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. » Vous avez dans ces quelques paroles les trois pouvoirs qui sont confiés à l'Église. Aller enseigner toutes les nations, le pouvoir d'enseigner, auquel correspond la foi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, à ce pouvoir d'enseigner correspond pour nous l'obligation de croire. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de donner la vie surnaturelle, le pouvoir de sanctifier par les sacrements. Donc là, vous avez le baptême, mais dans d'autres parties, vous avez le pouvoir de remettre les péchés, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à qui vous les remettrez et retenus à qui vous les retiendrez. Et vous avez ensuite le pouvoir de gouverner, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et ailleurs, notre Seigneur dit aux apôtres, parle aussi de ce pouvoir de commander. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ces trois pouvoirs, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Ces pouvoirs sont donnés à l'Église. Alors les protestants, eux, voudraient qu'on s'arrête là et qu'il n'y ait pas de société visible, avec une autorité visible. Or, c'est contraire à la nature de l'homme. L'homme est un être corporel, âme et corps. Donc, il a besoin de quelque chose de visible. C'est dans notre nature. Nous ne pouvons aller à l'invisible que par le visible. Donc, s'il y a une église sur terre, elle doit être visible pour correspondre à notre nature corporelle qui a besoin du visible. Puis d'autre part, nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin d'une société pour faire notre salut. Et donc, il faut une société, et société qui doit donc être visible. C'est l'Église sur terre. Société visible, bah, c'est un chef visible. Un chef ou des chefs visibles, une hiérarchie visible. Alors, par ailleurs, ces trois moyens de salut, les vérités à croire, la grâce à recevoir et les lois à observer, pour lesquelles notre Seigneur a donné ce triple pouvoir. Nous devons les vérités à croire, cela correspond au pouvoir d'enseigner, la grâce à recevoir, ça correspond au pouvoir de sanctifier, et l'obéissance à la loi correspond au pouvoir de gouverner. Eh bien, ces trois moyens de salut ont besoin de demeurer un à travers les siècles, doivent demeurer un. L'unité de la foi, comment maintenir les vérités de la foi dans leur intégrité, pure de toute erreur. Et cela, donc cette unité des vérités de la foi à travers le siècle. L'unité des moyens de sanctification, les sacrements doivent être toujours les mêmes. Notre Seigneur les a institués, ils ne peuvent pas changer. Et puis la loi, le gouvernement, ben, c'est toujours la même chose. La direction est toujours la même. Donc il faut toujours qu'il y ait des lois dans l'Église qui dirigent vers le but à atteindre. Donc pour maintenir cette triple unité, unité de foi, unité des moyens de sanctification et l'unité de gouvernement, une unité de loi de gouvernement, mais il faut une cause. Une cause à cette unité et à cette perpétuité de l'Église telle que Jésus-Christ a voulu la fonder. Et notre Seigneur veut la perpétuité de l'Église. C'est la dernière phrase de l'Évangile de saint Matthieu. « Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Or, cette cause de cette triple unité, c'est le pape. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce que dit le Concile Vatican I. Donc, c'est 1870. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, pour que grâce à l'union étroite et réciproque des évêques, la multitude entière des croyants fût gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des apôtres, il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Donc, double unité, c'est l'unité des évêques et l'unité des fidèles. C'est le pape qui est la cause de l'unité, de cette double unité, l'unité des évêques et l'unité des fidèles. Dans la foi, donc. Sur sa solidité se bâtira le temple éternel et sur la fermeté de cette foi s'élèvera l'Église dont la grandeur doit toucher le ciel. Donc, l'œuvre de notre Seigneur doit continuer. Pour que cela soit possible, il institue l'Église. Il lui donne trois pouvoirs, et pour maintenir l'unité de ces trois pouvoirs, l'unité de foi, l'unité de sanctification, l'unité de gouvernement, il donne une autorité visible à l'Église. Et cette autorité suprême, c'est le pape, donc c'est le fondement visible de l'unité et fondement perpétuel, puisque l'Église doit toujours durer. Donc, le pape est le vicaire de Jésus-Christ, le successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome et le chef visible de l'Église. Le pape est vicaire de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il tient, ou plus exactement, il doit tenir la place de Jésus-Christ. Vicaire, ça veut dire cela, hein, qui tient la place de. Successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome, c'est-à-dire que le pape est évêque de Rome, donc il succède à l'évêque de Rome. Et donc chef visible de l'Église. Et les évêques, eux, puisqu'on va parler des évêques, les évêques sont les successeurs des apôtres, bien sûr, chargés par le Saint-Esprit du gouvernement des diocèses, sous l'autorité du pape. Donc l'évêque n'a d'autorité que sur son diocèse, et il ne tient son autorité que du pape. Alors, c'est important ça, parce que l'évêque n'a proprement d'autorité que sur son diocèse et il ne tient son autorité que du pape. C'est la hiérarchie, hein. Vous avez Jésus-Christ fait le pape et il donne au pape pouvoir sur les évêques. L'Église est une monarchie en ce sens. Une monarchie, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui est au sommet pour gouverner les autres. Donc l'évêque, bien sûr, devient évêque par la consécration épiscopale. La consécration épiscopale fait l'évêque. Mais l'évêque n'obtient juridiction que du pape. La juridiction, c'est l'exercice légitime du pouvoir de commander à un troupeau déterminé, c'est-à-dire à un diocèse. Donc la juridiction, c'est l'exercice légitime du pouvoir de commander sur un troupeau déterminé, sur un diocèse. Pouvoir de juridiction, c'est donc la juridiction, c'est le pouvoir de commander, c'est l'exercice légitime du pouvoir de commander. Et c'est le pape qui le donne. C'est pourquoi nos évêques n'ont pas juridiction. Ils n'ont pas de troupeau. Les évêques de la fraternité n'ont pas de juridiction, ils n'ont pas de troupeau à qui commander. Donc ils ne commandent pas. Ils se contentent de donner les sacrements. C'est tout. La confirmation et le sacerdoce. Ils n'ont pas d'autres, ne peuvent pas faire autre chose. c'est le pape qui donne cette juridiction et qui normalement nomme l'évêque. Alors, il s'est trouvé, c'est une petite précision, pour la France, il arrivait souvent que le gouvernement, l'État, ait le privilège de désigner l'évêque, en tous les cas, de dire son mot quant à la désignation de l'évêque. En France, c'est un petit peu cela. Or, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 a rendu caduc cet pouvoir de l'État sur la nomination des évêques, mais c'est à cause de Pie XI, en 1922, que l'État a retrouvé ce pouvoir de dire son mot sur la nomination des évêques. En France, en tous les cas, c'est ainsi. C'est un accord tacite qui demeure. Donc, le pape ne peut pas faire tout à fait ce qu'il veut dans la nomination des évêques. Le gouvernement a son mot à dire. C'est tout à fait anormal. Alors, le gouvernement, quant à la désignation de la personne, bien sûr, le pouvoir de juridiction est donné directement par le pape. Je vous donne cette petite précision parce qu'on se pose toujours un petit peu la question. Alors, de fait, il y a une influence de l'État dans le choix de tel ou tel évêque pour tel ou tel diocèse. Alors, le pape lui-même a juridiction, c'est le pouvoir de commander. Alors, la question, c'est de savoir si ce pouvoir de juridiction est une vraie autorité sur les inférieurs ou simplement primauté d'honneur ou primauté de direction. Donc, le pape, bien sûr, étant à juridiction, il a autorité, mais quelle est la nature de cette autorité? C'est ça qui est en question. A-t-il une vraie autorité sur des inférieurs? Dans ces inférieurs, il y a les évêques et tous les fidèles. Ou bien a-t-il simplement primauté d'honneur ou primauté de direction? Alors j'explique ce que c'est. Primauté d'honneur, c'est parmi des égaux, l'honneur est donné à l'un d'entre eux. Par exemple, le doyen des cardinaux. Tous les cardinaux sont égaux, mais le doyen, le plus âgé, a un honneur au-dessus des autres. Bon. C'est simplement une primauté d'honneur. Il n'a pas d'autorité particulière sur les cardinaux. Primauté de direction, parmi des égaux, l'un est choisi pour diriger les débats. C'est à l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui dirige les débats, mais il n'a pas d'autorité sur les membres de l'Assemblée. Alors, le pape a-t-il cette vraie autorité sur des inférieurs, cette primauté d'une véritable juridiction? Et non pas seulement une primauté d'honneur. Alors les orthodoxes nient cette primauté de juridiction, ils admettent la primauté d'honneur, mais l'évêque de Rome, pour eux, l'évêque de Rome est l'égal des patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem. Alors c'est en ce sens, faux d'ailleurs, mais en ce sens peut-être qu'on peut interpréter ce que dit souvent le pape, il parle d'église sœur. En parlant de ces églises d'Orient, des églises de rite orthodoxe. Il parle d'église sœur. Mais non, l'église de Rome est l'église mère. Et les autres doivent être soumis. C'est ça la réalité. Mais les orthodoxes refusent, ils veulent qu'il y ait égalité en quelque sorte entre l'église de Rome et les patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem. Les protestants, eux, rejettent le pape. Pour Luther, ce pouvoir de commander est donné à l'Église et non pas à une personne. Il est donné à l'Église, à l'ensemble, et non pas à une personne. Alors, on dira quelques mots sur ça tout à l'heure. Les anglicans admettent la primauté d'honneur, mais ils ne vont pas plus loin. Ce fut la pierre d'achoppement lors des conversations de Malines, c'est-à-dire que le cardinal Mercier avait organisé donc à Malines en Belgique des colloques, des rencontres entre catholiques et anglicans dans les années 1920. ils étaient allés assez loin dans les, un petit peu, je pense, les concessions des catholiques à l'égard des anglicans, mais le point d'achoppement, c'était cette primauté de juridiction. Les anglicans s'arrêtaient à la primauté d'honneur. Ils ne voulaient pas admettre cette primauté de juridiction, de gouvernement. Et c'est à la suite de ces conversations de Malines que le pape Pie XI a publié l'encyclique sur l'œcuménisme, Hortalium Animos, que je vous invite à lire, parce qu'elle concerne directement ce sujet. Hortalium Animos n'est pas très difficile, mais il explique bien les choses. Les modernistes, bien sûr, nient aussi cette primauté de juridiction. Ils lui donnent un sens de primauté de direction. Et pour eux, bien sûr, le pouvoir est dans le peuple. Ça, je peux expliquer pourquoi, mais ça, je ne peux pas. Alors, quel est l'enseignement de l'Église et de l'Évangile sur l'autorité donc du pape? Donc, pourquoi le pape possède-t-il l'autorité suprême dans l'Église? Eh bien, parce qu'étant le successeur de Saint-Pierre, il a dans l'Église la primauté que Jésus a conférée à Saint-Pierre. Donc, il est de foi que Jésus a conféré la primauté à Saint-Pierre sur les apôtres. Et cette primauté va se transmettre au successeur de Saint-Pierre, donc à tous les papes. Alors voici ce que dit le Concile, c'est donc une forme de condamnation. Si quelqu'un dit que le bienheureux apôtre Pierre n'a pas été constitué par le Christ notre Seigneur, le prince des apôtres et le chef visible de toute l'Église militante, ou que le même Pierre n'a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu'une primauté d'honneur et non de véritable et propre juridiction, qu'il soit anathème. Autrement dit, celui qui dit que Jésus-Christ n'a donné à Saint-Pierre directement qu'une primauté d'honneur, ben ça, il est condamné. Et l'Église veut que nous disions qu'il a reçu directement et immédiatement de Jésus-Christ la primauté de juridiction, l'autorité. Donc, c'est Jésus-Christ qui donne à Saint-Pierre une vraie autorité sur tous les inférieurs. Et c'est non pas Jésus-Christ, comme veulent les protestants, qui donne à l'Église ce pouvoir, et ce pouvoir de l'Église remonte vers l'autorité, ce qui est la démocratie. Alors, que nous enseigne l'Évangile à ce sujet? Eh bien, Jésus-Christ prépara cette primauté en imposant à Simon, fils de Jonas, un nouveau nom, le nom de Céphas ou Pierre. Tu t'appelles Simon, mais désormais tu t'appelleras Pierre, Céphas. Il lui promet la primauté lorsqu'il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc il lui promet cette primauté et après la résurrection, il lui donne cette primauté « Paix mes agneaux, paix mes brebis » C'est l'évangile que nous avons eu pour le 29 juin, pour la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul. D'autre part, Saint-Pierre apparaît toujours le premier dans les évangiles et dans les actes. Il apparaît toujours le premier, quoiqu'il n'ait ni priorité d'âge, ni priorité de vocation, ni priorité de science. Il est nommé toujours le premier dans la liste des apôtres. Il est le premier à confesser la foi. Quand notre Seigneur dit à Saint-Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est parce que juste avant, Jésus-Christ a demandé, « Que dit-on de moi ?» Alors, les apôtres répondent, « Bon, certains disent que vous êtes Élie, que vous êtes tel prophète, etc. » Et Jésus demande aux apôtres, « Et pour vous, qui suis-je » Et là, c'est Saint-Pierre qui répond, « Au nom de tous les apôtres. » Et Saint-Pierre dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Saint-Pierre confesse sa foi en la divinité de Jésus-Christ et en son rôle de Messie. Le Messie annoncé, prophétisé. Alors, notre Seigneur lui dit, ça, c'est, tu ne l'as pas appris tout seul, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Tu l'as appris par Dieu. Et donc, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est lui qui parle au nom de tous les apôtres. C'est le premier aussi qui vit le Seigneur ressuscité, le premier des apôtres qui vit le Seigneur ressuscité. C'est aussi le premier qui rentre, premier des apôtres qui rentre dans le tombeau. Avec Saint Jean, il court au tombeau. Saint Jean est plus jeune, on la court plus vite. Bien sûr. Mais Saint Jean s'arrête à l'entrée du tombeau et il laisse Saint Pierre entrer le premier. C'est le premier qui rend témoignage devant tout le peuple. Le premier qui confirme la foi par un miracle, c'est à l'une des portes du temple. Le premier qui s'occupe de la conversion des Juifs, le premier à recevoir les gentils, le premier à prendre la parole au concile de Jérusalem, donc ça c'est dans les actes des apôtres, il y a un premier concile à Jérusalem, le premier que vient voir Saint Paul avant d'exercer les fonctions de l'apostolat, Saint Paul, avant vraiment de prêcher dans tout l'univers, va trouver Saint Pierre, reste 15 jours avec lui, et ensuite s'en va prêcher. Et l'Église a toujours cru à cette primauté de Saint Pierre. On le voit d'ailleurs dans l'histoire d'Église, dans les premiers siècles. On s'adresse au successeur de Saint Pierre lorsqu'il y a une question à trancher. Donc bien sûr, cette primauté de Saint-Pierre continue dans les pontifes romains, dans les papes. Alors, c'est encore le Concile Vatican I qui le dit. Si quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus-Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église, donc cela vient de l'institution de Jésus-Christ ou du droit divin que Saint-Pierre a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église. Alors, cette primauté du pape, c'est en tant que gouvernement, la juridiction concerne le gouvernement, en quoi consiste-t-elle? Donc, c'est le Concile Vatican I qui précise tout cela, parce qu'il devait y avoir des raisons de le faire à cette époque, donc ça devait déjà être des questions controversées. Alors, je vais vous le lire et après je vous préciserai les choses. Le passage est assez long et encore il n'est qu'une partie. Je vais vous le lire et je vous préciserai les choses ensuite. Ce qui est important à retenir. Donc, nous enseignons et nous déclarons. Vous voyez, entre parenthèses, la manière dont parle un concile, un vrai concile, lorsqu'il veut définir quelque chose comme étant de foi. Nous enseignons et nous déclarons. Et après, vous avez, si quelqu'un nie ce que nous venons d'enseigner, donc si quelqu'un nie ceci ou cela, eh bien qu'il soit anathème, c'est-à-dire condamné. Donc c'est vraiment très clair ce qui doit être cru comme étant de foi. On ne trouve pas du tout cette formulation dans le Concile Vatican II, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir si l'autorité est engagée ou non. Nous enseignons et nous déclarons que l'Église romaine, par une institution divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres églises et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Que les pasteurs et les fidèles, tant isolément et à part que tous ensemble, quel que soit leur rite et leur rang, leur rite romain, enfin celui d'Occident ou le rite oriental, quel que soit leur rite ou leur rang, lui soient assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église, répandu dans tout l'univers, de sorte que gardant l'unité, soit de communion, soit de profession du même foi avec le pontife romain, l'Église du Christ soit un seul troupeau sous un seul pasteur suprême, Telle est la doctrine de la vérité catholique dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a que la charge d'inspection et de direction, donc le pouvoir carré un égal parmi des égaux, un pouvoir d'inspection, de direction, mais pas une vraie autorité qui oblige à l'obéissance de ceux qui sont en dessous. Donc si quelqu'un dit que le pontife romain n'a que la charge d'inspection et de direction et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline ou au gouvernement de l'Église répandue dans tout l'univers, ou qu'il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême, ou que ce pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux, qu'ils soient anathèmes. Alors, cette citation, vous la trouvez dans le livre de fidélité là, que je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Alors, je vais expliquer. Donc, ce pouvoir d'autorité du pape, cette autorité qu'il exerce sur des inférieurs, c'est un pouvoir plein. Donc, il n'est pas limité par qui que ce soit sur terre. Dans les choses, dans tout ce que Jésus-Christ a voulu donner comme pouvoir au pape, eh bien, le pape a tout pouvoir. Personne sur terre ne peut limiter ce pouvoir. Dans ce que Jésus-Christ a prévu pour son Église, le pape a plein pouvoir, entier. Pas à moitié, pas un petit morceau, non, tout. Donc il n'a pas seulement la principale part, mais toute la plénitude, la totalité de ce pouvoir. Ensuite, un pouvoir suprême. C'est-à-dire que le pape n'a pas de supérieur ici-bas. Il ne relève que de Dieu et de Jésus-Christ. Donc de Jésus-Christ. Alors je vous rappelle, ce qui est important dans la situation actuelle quand même, c'est que le pape n'est que vicaire de Jésus-Christ. Donc il est soumis. S'il n'est soumis à personne ici-bas, puisqu'il est au-dessus de toutes les autorités terrestres, lui est soumis à Jésus-Christ et à ce que Jésus-Christ a voulu pour son Église. Attention, son pouvoir n'est pas absolu. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il doit faire ce que veut Jésus-Christ. Attention, il faut bien préciser ce qui légitime notre désobéissance puisqu'il nous oblige à obéir à des choses qui sont contraires à ce que Jésus a voulu. Donc là, on ne peut pas obéir. Son pouvoir n'est pas un pouvoir absolu, c'est un pouvoir limité, relatif. Relatif à ce que Jésus a voulu en fondant son Église. Ce n'est pas le pape qui a fondé l'Église. Donc il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Soyons bien précis sur ce point. Donc, plein pouvoir, eu égard à ce que Jésus a donné à son Église, il a plein pouvoir. Pouvoir suprême, il n'a personne au-dessus de lui. Alors, c'était la querelle du concile au-dessus du pape dans l'époque de la Renaissance, au moment en particulier du grand schisme d'Occident, là, qui s'est terminé juste avant Sainte-Jeanne d'Arc. Et on faisait appel au concile pour juger du pape. Mais ça, bien sûr, c'est contraire. Il n'y a pas d'autorité au-dessus du pape, sur terre. Un pouvoir universel, c'est-à-dire qui s'étend à tous, pasteurs et fidèles. Si vous voulez, le pape est évêque des évêques et évêque de tous les fidèles. Universel, il s'étend à tous. Pouvoir ensuite ordinaire. C'est-à-dire que ça appartient à sa dignité de pape, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel qu'il recevrait par délégation, par mandat. Non, ça fait partie de sa fonction. Voilà ce que ça veut dire. Pouvoir ordinaire fait partie de sa fonction, personne ne peut y toucher. Et pouvoir immédiat, C'est-à-dire qu'il peut exercer ce pouvoir sur tous, directement, ou par intermédiaire, mais il peut exercer son autorité directement. Donc si le pape arrive dans un diocèse et qu'il veut, il veut faire quelque chose à tel fidèle, ben il peut, même si l'évêque n'est pas d'accord. L'évêque n'a rien à dire. Si le pape veut dire, veut donner tel pouvoir, tel privilège ou telle faveur à un fidèle dans un diocèse, ben le pape le donne, et l'évêque n'est pas d'accord, ben il n'a rien à dire. C'est lui, c'est le pape le chef. Il a un pouvoir immédiat, non seulement sur les évêques, mais aussi sur tous les fidèles. Et on dit que ce pouvoir est épiscopal, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, comme tout évêque, dans son diocèse. Il est pasteur, si vous voulez, un pasteur, donc il gouverne son troupeau en enseignant, en sanctifiant et en gouvernant. Les trois pouvoirs, dans l'exercice des trois pouvoirs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, maintenant, nous allons faire un peu les conséquences, les applications. Conséquence, tout fidèle à deux évêques. Normalement, dans la situation normale, tout fidèle à deux évêques, celui de son diocèse et le pape. Le pape est évêque de tous les évêques et évêque de tous les fidèles. Donc, tout fidèle à deux évêques, le pape et l'évêque du diocèse. Donc, le tout fidèle peut s'adresser directement au pape pour lui demander quelque chose. Puisque c'est son évêque, le pape étant évêque de tous les fidèles, normalement, tout fidèle peut s'adresser directement au pape. Et c'est pourquoi il est tout à fait normal que, depuis le Concile, sans cesse, le pape, ou bien Rome, renvoie à l'évêque du lieu. Quand un fidèle demande à quelque chose, ou un prêtre demande quelque chose à Rome ou au pape, le pape renvoie aux conférences épiscopales ou à l'évêque. Comme si le pape ne pouvait pas exercer son autorité directement. Ce qui n'est pas normal. Ensuite, quelque chose qui est très important. Au Concile Vatican II, on a dit l'Église est le peuple de Dieu. On a défini l'Église de cette manière. L'Église, peuple de Dieu. Alors, ce n'est pas vrai. Bon, ce n'est pas dit de façon tout à fait aussi crue, aussi nette, mais Jésus n'a pas fondé le peuple, d'où proviendrait la hiérarchie. Mais Jésus-Christ a fondé la hiérarchie, pape et évêque, d'où provient le peuple des fidèles. Jésus-Christ n'a pas fondé le peuple de Dieu, mais il a fondé la hiérarchie, et c'est la hiérarchie qui constitue peu à peu les fidèles, en les faisant entrer dans l'Église par l'intermédiaire du triple pouvoir. Quand vous constituez un troupeau de brebis, ben vous commencez par faire le pasteur, parce qu'un troupeau de brebis sans pasteur, ben ça ne marche pas. Donc on commence par s'occuper du pasteur, et c'est au pasteur qu'on confie les troupeaux du brebis. Le troupeau de brebis. Donc ce sont les pasteurs qui font le troupeau, qui le constituent, qui l'augmentent peu à peu en convertissant les âmes. Donc, définir l'Église comme peuple de Dieu, c'est contraire à ce que notre Seigneur a voulu, puisqu'il a fondé l'Église sur Pierre et sur les évêques, sur le pape et sur les évêques. Il n'a pas fondé l'Église sur le peuple. Parce que sinon, on va dire que Jésus-Christ a fondé le peuple, qu'il a donné le triple pouvoir au peuple, et que ce pouvoir du peuple va dans la hiérarchie. Ce qui est la démocratie, et ce qui est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est aussi tout à fait en correspondance avec le modernisme. Donc Jésus-Christ a fondé la hiérarchie, et la hiérarchie fait le peuple, fait l'ensemble des fidèles. Mais si on dit que l'Église est le peuple de Dieu, et que Jésus-Christ aurait fondé le peuple et qu'il aurait donné au peuple les pouvoirs à ce moment-là, on diminue les fonctions de la hiérarchie. Si on diminue les fonctions de la hiérarchie, la grâce de Dieu ne passe plus. Parce que la grâce de Dieu passe par la hiérarchie, pape, évêque. Et elle descend. Mais elle ne fait pas, elle ne monte pas du peuple vers en haut. Ce qui explique qu'aujourd'hui, comme la hiérarchie est défaillante et ne s'exerce plus, la grâce de Jésus-Christ ne passe plus comme il faudrait. Et l'Église n'est plus sanctifiée comme il le faudrait. La grâce vient d'en haut et non pas d'en bas. Troisième conséquence de son enseignement de l'Église, le pape n'est pas l'égal des évêques. Il a une autorité entière, pleine et entière, sur les évêques, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient assemblés. Il n'y a donc pas deux autorités dans l'Église. Alors ça, c'est encore le Concile Vatican II, c'est la collégialité au Concile Vatican II. Deux autorités dans l'Église, le pape seul et... deuxième autorité, le collège des évêques avec le pape à sa tête. Alors voici ce que dit le Concile Vatican II. De même que Saint-Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique. Semblablement, le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout. L'ordre des évêques qui succède au collège apostolique constitue lui aussi. Donc l'ordre des évêques, le collège des évêques, l'ensemble des évêques, constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, avec le pape, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Donc vous avez deux autorités dans l'Église, le pape tout seul, et le collège des évêques, avec à sa tête le pape. Ce qui n'est pas normal, bien sûr. Comme si le pape ne pouvait avoir son autorité qu'à l'intérieur du collège des évêques, en dépendance de l'ensemble des évêques, comme si son pouvoir venait d'une assemblée d'évêques et qu'il ne pouvait pas s'exercer sans cette assemblée. Et ce qui explique donc, depuis Vatican II, on voudrait cette collégialité, c'est-à-dire que tous les évêques qui soient dispersés sur la terre ou bien assemblés en concile constituent une autorité permanente avec le pape à sa tête. Et en ce sens que le pape tirerait son autorité de ce collège ou qu'il n'aurait qu'une part plus importante et non pas la totalité du pouvoir. Cette collégialité, bien sûr, elle est au niveau des rapports entre le pape et évêque, mais elle se trouve aussi dans les rapports avec les conférences épiscopales et les évêques. Les évêques perdent leur pouvoir personnel. La conférence épiscopale a décidé que, amen, et l'évêque ne peut plus rien faire de ce qu'il veut dans son diocèse. Et puis ça se descend ensuite dans les rapports entre l'évêque et les prêtres, avec les conseils presbytéraux, et ensuite le même principe descend des prêtres dans les rapports avec les fidèles. Vous avez les conseils paroissiaux, donc c'est plus le prêtre qui gouverne, il ne peut plus faire ce qu'il veut. On a la démocratie, si vous voulez, à tous les niveaux de hiérarchie. Et ceux qui perdent leur pouvoir, c'est les personnes. Le pouvoir n'est plus personnel, mais il se dissout, il se dilue dans des assemblées. Le collège des évêques, l'ensemble des évêques par rapport au pape, les conférences épiscopales, donc qui absorbent le pouvoir personnel de chaque évêque, et ensuite, ainsi de suite, en dessous. Donc on n'a plus des pouvoirs personnels avec des personnes qui ont une responsabilité devant le pape ou devant Dieu, mais l'autorité est diluée dans des assemblées. Alors les assemblées, pour fonctionner, ont des commissions. Il y a la commission chose, la commission truc, la commission de liturgie, la commission d'écriture sainte, la commission de ceci, la commission pour le catéchisme. Et on ne sait plus qui gouverne. Alors c'est en ce sens, me semble-t-il, que donc le pape Jean-Paul II, dans sa lettre que je vous ai citée tout à l'heure, dit que la primauté est un don confié à l'intérieur du collège des évêques à l'apôtre Pierre. Ben non, la primauté est confiée à Pierre, indépendamment des évêques. Ce n'est pas un don confié à l'intérieur du collège. Puisque le Vatican a dit, si quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une part plus importante et non la plénitude de ce pouvoir suprême, qu'il soit anathème. Donc, si c'est un don confié à l'intérieur du collège, ça veut dire que le pape a une part du pouvoir, mais c'est une part qui... La totalité du pouvoir appartient au collège des évêques, puis le pape, lui, il a sa part qui est plus grande que les autres. Ben non, ça, c'est pas vrai. Il a pleine autorité. Donc le pape devrait gouverner tous les évêques. Il devrait dire, bon, vous faites ça, vous obéissez, puis c'est terminé. On sait bien qu'aujourd'hui, est-ce que vaut l'obéissance dans l'Église? Or, par ailleurs, cette primauté du pape telle que je vous l'ai définie selon le Concile Vatican I, cette primauté fait partie de la constitution même de l'Église. Elle est immuable. En elle-même et dans toutes ses propriétés, elle n'est pas soumise à évolution. On ne peut pas changer ça. C'est ce que dit Saint Pie X en condamnant une des propositions modernistes. Donc, il faut comprendre que toute cette idée de collégialité, enfin tout ce que l'idée de collégialité avec cet esprit démocratique, c'est une caractéristique du modernisme. Alors Saint Pie X dit, la constitution organique de l'Église n'est il condamne cette proposition dans le décret Lamentabili. La constitution organique de l'Église n'est pas immuable, mais la société chrétienne est soumise à une évolution perpétuelle, tout comme la société humaine. Et ça, c'est condamné. Donc, il n'y a pas de changement possible dans la constitution de l'Église. Alors, dans ce cas, on ne voit pas très bien comment le pape peut dire qu'il faut chercher une nouvelle forme d'exercice de ce primat. Car, vous savez, changer la forme d'exercice d'un pouvoir... Ben, c'est un peu changer ce pouvoir lui-même. Le pouvoir, c'est agir, hein, c'est commander. Si vous changez la manière de commander, la manière d'agir auprès d'inférieurs, ben, c'est la nature même du pouvoir qui va être changée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez, la gravité, c'est qu'on touche quelque chose qui est essentiel dans l'Église, puisque le pape et sa primauté, ce pouvoir suprême, c'est le fondement de l'Église. De l'unité visible, de cette triple unité de foi, de culte et de loi. Si on touche à ça, l'Église va voler encore un peu plus en éclat qu'elle ne l'est déjà, malheureusement. Alors, c'est l'existence même de l'Église qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prier. La prière et la pénitence dans le sens de Fatima. Vous savez que le sens de Fatima, c'est probablement l'apostasie à l'intérieur même de l'Église, c'est-à-dire la défaillance de la hiérarchie. Principalement. D'après ce que dit Sœur Lucie, d'après ce qu'on a pu apprendre, d'après les paroles des uns et des autres, ça concerne certainement la défaillance de la hiérarchie dans l'Église. Donc, dans le sens de Fatima, de demande de la Sainte Vierge à Fatima, il faut beaucoup prier, faire pénitence, pratiquer les premiers samedis du mois, et puis après, le reste, difficile. Ensuite, ce que nous pouvons faire aussi, c'est restaurer le principe d'autorité là où nous sommes. Dans la famille, Saint Jean Chrysostome dit que la famille est comme une petite église. Et la famille est fait partie à la fois de la société civile et de la société religieuse, bien sûr. Dans cette société qu'est la famille, l'autorité appartient au père de famille. Eh bien, il faut faire en sorte que cette autorité soit restaurée, ou soit s'exerce comme il faut. C'est au père de famille d'exercer une autorité qui doit être semblable à celle de Jésus-Christ. Et puis, dans vos rapports avec le clergé de la tradition, avec les prêtres, il faut garder de l'esprit de l'Église. C'est vrai que nous n'avons pas de juridiction sur vous, parce que la situation n'est pas normale. Nous sommes une situation d'exception, mais l'esprit de l'Église, c'est un esprit d'ordre. Donc, il faut que nous appliquions ce principe d'obéissance par vertu et non pas par une obligation. L'Église nous obligerait à ceci ou cela, non, parce que c'est vrai que je ne peux pas vous obliger à ce que vous obligerez un curé ou un évêque, ce n'est pas vrai. Je peux simplement vous rappeler l'enseignement de l'Église, vous dire qu'il faut obéir à la loi de Dieu, et puis vous donner les sacrements, et vous enseigner la foi, et vous donner les sacrements. Mais je n'ai pas un pouvoir de juridiction, je n'ai pas de troupeau, je n'ai pas de fidèles. Je donne parce qu'on vient me demander. Mais c'est tout. Donc je suis obligé de donner parce qu'on vient me demander. Donc j'ai le devoir. C'est le devoir du prêtre, le devoir de tout prêtre de le faire. Donc notre autorité est délicate à exercer, mais il faut garder l'esprit de l'Église, donc cet esprit d'obéissance et le faire par vertu. C'est ce que Mgr Tissier expliquait au cercle de tradition en 89, je crois, il faudrait vérifier. Et avec le clergé moderniste ou défaillant, enfin avec tous les prêtres ou évêques qui sont défaillants, il faut garder le respect de l'autorité. Il faut garder le respect de l'autorité. Le respect de la fonction. Il faut bien dénoncer l'erreur et le mal. C'est vrai, ce qui ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas se boucher les yeux. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, c'est comme ça. Mais il faut le faire dans le respect de l'autorité, dans le respect de la fonction. Et cela doit être pour nous une peine, une souffrance de voir l'Église dans cet état, de voir la hiérarchie de l'Église dans cet état. Parce que c'est Jésus-Christ défiguré. C'est Jésus-Christ dans sa passion, couvert de crachats, couvert de coups, etc. N'oublions pas que... Oui. N'oublions pas que l'Église... c'est Jésus continué. Donc je vous invite à faire attention à cela, parce que souvent il y a ce manque de respect envers les autorités. Alors il faut bien dire ce qui ne va pas conformément à l'enseignement de l'Église, mais il ne s'agit pas de dire oh oui mais celui-là, non, tous ces critiques, etc. Non, en disant ça ne va pas, et puis on ajoute bien prions pour eux, faisons pénitence pour eux, pour qu'ils se convertissent, qu'ils reviennent dans le bon chemin. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, soyons patients, faisons confiance à notre Seigneur. Les portes de l'Église ne prévendront pas contre l'Église de Jésus. Les portes de l'enfer, pardon, ne prévendront pas contre l'Église de Jésus-Christ.